Observateur aiguisé de la société russe, Bernard Joliot est chargé d'enseignement et de langue et civilisation russe à l'Université catholique de Lille. Alors Bernard Joliot, que vous inspirent les résultats des élections en Russie et la victoire de Vladimir Poutine le 4 mars 2012 avec plus de 63% des suffrages?
63,64%, le chiffre mérite d'être donné parce que le traficage a été tellement fort que pour donner l'illusion d'une élection, ça mérite d'être approfondi. Moi, ça m'inspire pas grand-chose parce que je pense que l'élection était d'abord profondément jouée avant d'être effectivement réalisée. L'élu était autoproclamé, il n'y avait pas de surprise à en attendre. Et pourtant, toute cette élection prise dans un contexte un peu plus large nous fait comprendre peut-être mieux qu'autre chose dans quel état ou dans quelle situation ou dans quelle perspective se trouve la Russie contemporaine. Je crois que c'est ça qu'il faut voir et que peut-être les commentateurs n'ont pas vu suffisamment. D'abord, je crois que ce qu'il faut bien dire, c'est qu'entre l'élection législative précédente de quelques un mois et demi et cette élection du 4 mars, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à travers ce que nous avons appelé la contestation, c'est quand même une société qui, finalement, en arrive à refuser un modèle imposé, d'une manière générale, et qui va, sinon mettre en balance, finalement, le pouvoir, toucher à ce qu'il a de plus précieux et ce qu'il ne tolère pas, c'est-à-dire sa mise en cause de sa légitimité traditionnelle. Je me souviens, pour avoir passé quand même de nombreuses années en Russie, que tout était possible, prévarication, contestation, corruption, détournement, vie normale. Mais une seule chose n'était pas tolérée, sous quelque forme que ce soit, c'était la remise en cause de la légitimité du pouvoir. Et à travers ce qui s'est passé dans ces deux élections, je crois qu'il y a eu un phénomène qui se produit de maturation des pensées, mais une maturation qu'il faut peut-être pas non plus complètement idéaliser et mythifier. Parce que entre ceux qui vont contester de manière extrêmement diverse et la réalité finalement de la contestation, les choses ne sont pas simples. Une grande partie de ceux qui, en particulier à Saint-Pétersbourg et surtout à Moscou, ont été dans les rues, ce sont en fait ceux qui font partie des nantis. C'est-à-dire ceux qui finalement ont le plus profité, j'allais dire, des libertés nouvelles données par le système. Ils sont un petit peu, si vous voulez, Françoise, comme ces enfants qui quittent le père et quelque part le trahissent. D'où une impression probablement chez le président Poutine et ceux qui l'entourent, quelque chose d'incompréhensible, être mis en cause par ceux-là même qui ont profité quelque part de cette stabilité, et sans doute contestablement évolution économique positive, ce sont ceux-là même qui vous mettent en cause. Et je pense que le phénomène est intéressant, et ça c'est particulièrement le cas de Moscou et de Saint-Pétersbourg. C'est un petit peu moins caricatural en tout cas, dans d'autres domaines, c'est les villes de Sibérie en particulier, c'est-à-dire tous ces secteurs abandonnés de la Russie. Parce que la Russie, tout en ayant connu des moments de développement phénoménal, souvent mélangeant, j'allais dire, le passé le plus ringard avec la modernité la plus kitsch, on peut dire aussi que des pans entiers de la Russie sont laissés de côté, ce ne sont pas forcément ceux qu'on a plus trouvé dans les manifestations, mais il y en a eu quand même. Mais c'est pour ça que je crois que c'est quand même ces élections sont un moment de la Russie prodigieusement intéressant. Parce que tout est apparu. Dans la première élection est apparu les phénomènes classiques qu'on a bien connus en Seine-Saint-Denis, c'est le bourrage des urnes. Moi, j'ai certaines époques, sinon participer, tout du moins constater ces pratiques
Ah ben j'espère que vous n'avez pas participé.
Bien entendu. Ces pratiques qui ont eu lieu, qui ont connu, les manipulations ne sont pas récentes. Mais ça trahit aussi quelque chose qui est un trouble. Ça trahit surtout que le pouvoir se sent beaucoup moins sûr de lui qu'il ne l'a été. Et puis, on peut dire que l'entourage de Poutine a réellement tiré les conséquences de cette première illustration où le dégoût est apparu, en particulier dans les élites. Donc entre la première et la deuxième élection, il y a eu une évolution formidable. Là, on a eu recours à des méthodes beaucoup plus inventives, beaucoup plus ingénieuses. Bien sûr, on a donné des chiffres à tel ou tel gouverneur, à tel ou tel responsable de région, pour arriver à des chiffres qui soient substantiels et non ridicules et non justes. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a repris les vieilles méthodes d'une époque soviétique où on a trimballé les urnes dans les hôpitaux, dans les universités, dans les usines. C'est ce qu'on appelle, en fait, le vote, si vous voulez, un peu traditionnel, où l'on vous force à voter, selon des méthodes qu'on a bien connues. Mais on a fait encore plus fort que ça dans cette nouvelle élection. On a inventé ce que l'on appelle les bureaux spontanément. Il faudrait prendre un terme comme vous tout à l'heure, M. Durand. Les bureaux subrepticement et formidablement apparus au dernier moment. C'est-à-dire que tout à coup, on vous a mis un bureau de vote au milieu d'un marché.
Ah oui, voilà qui est efficace.
On vous a mis marché vide, bien entendu, et qui arrive à des chiffres de représentation qui sont phénoménaux. C'est-à-dire que aussi bien les urnes mobiles que les bureaux de vote spontanément apparus donnent des chiffres qui donnent en fait des résultats de 89 à 93% de voix favorables à Poutine.
Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, de toute façon, Bernard Joliot, c'est que depuis Gogol et les âmes mortes, on sait de toute façon qu'en Russie, il n'y a jamais eu de vraie élection, de toute façon.
Oui, et ça a commencé même avant les élections, c'est ce qui est encore plus drôle. C'est-à-dire que, finalement, Poutine a choisi les gens qui pourraient peut-être, sans lui faire d'ombre, être devant lui. Avec quelques précautions, quand même, c'est-à-dire de ne leur donner accès, bien entendu, en tout cas jusqu'au dernier moment, aux médias. Ce qui, évidemment, réduit quand même l'impact de ce qu'ils peuvent dire.
Oui, c'est une fausse opposition.
On reprend les vieilles recettes, c'est-à-dire qu'on ressort le Parti communiste de Zyuganov, qui, malheureusement, continue de prétendre se mettre sous l'arbitrage d'un Staline bien longtemps enterré, mais qui, en fait, est une espèce de parti social démocrate, aux mœurs adoucies, mais qui ne représente pas un vrai danger, mais pour lesquels des intellectuels ont pu voter, par dégoût et par absence d'un autre choix possible.
Oui, parce que l'idée, c'est tout sauf Poutine.
Mais généralement, le Parti communiste soviétique avait comme fonction, dans la pensée poutinienne, de phagocyter les déçus, ou en tout cas les nostalgiques du passé. À côté de lui, on a ressorti, l'hyper-nationaliste Jirinovski, une espèce de clown éternel qui se présente presque comme une candidate à la présidentielle, Madame Laguiller, d'année en année ou d'élection en élection, et qui, progressivement, et c'est très intéressant, voit son chiffre baisser. Alors que l'hypernationalisme contamine l'ensemble de la société russe, on s'aperçoit que finalement les hypernationalistes peuvent se retrouver dans tous les partis. Peuvent se retrouver assez spontanément chez Poutine, c'est aussi un vecteur de sa politique. Et on peut le retrouver également chez les communistes. On peut le retrouver donc dans ce parti hyper-nationaliste de Jirinovski. On peut le trouver également dans un parti qui s'appelle Russie Juste, dont le candidat était Mironov. Sachant que les trois partis que je viens de citer votent à la Douma toutes les propositions de loi que Poutine fait passer.
Alors,
une fausse démocratie qui se donne des formes de démocratie.
C'est une mascarade, donc. Moi, j'ai adoré le candidat, donc le milliardaire Prokhorov, qui proposait une semaine à 60 heures. Et ça faisait pas ridicule, non?
Oui, sur la question des 60 heures, il faut bien savoir que depuis la perestroïka, après l'effondrement de la Russie, quand vous alliez vous promener à Moscou et que vous entriez, par exemple, dans les couloirs du métro où des magasins sont apparus en génération pas totalement spontanée, il faut savoir que c'est trois équipes qui tiennent le magasin 24 heures sur 24. Vous pouvez acheter du pain à Moscou au milieu de la nuit, ce qui d'ailleurs entre parents.
Oui, c'est toujours
vous
pratique.
Vous achetez de l'alcool.
Il me semble que l'alcool, c'est que plus que...
Vous pouvez aussi être porteur, mais vous pouvez faire vos courses au milieu de la nuit. C'est peut-être nos sociétés à nous, se sont peut-être parfois un petit peu bureaucratisées ou en tout cas fonctionnarisées.
Ah, cela dit, aux États-Unis aussi, on peut tout acheter.
Faire venir un médecin en Chine aussi. Un dimanche après-midi, ça commence à poser quelques problèmes. Par contre, en Russie, c'est simple, il suffit de payer.
Eh ben voilà.
Tout est payé.
Mais oui, mais donc ça renvoie à la mafia. Au rôle de la mafia qui
oui,
a noyé.
On ne sait pas quelle est la mafia. Est-ce qu'elle est au pouvoir? Est-ce qu'elle est. Mais le mafia, c'est un terme commode.
Oui, mais on parle d'une mafia d'État, disons.
Qui nécessite quand même d'être approfondie. Je voudrais revenir simplement sur ce que m'avait dit de Mikhail Prokhorov.
Ah oui, ils avaient un meilleur accent
que rien. Un des trois ou quatre grandes fortunes de la Russie. Au départ, c'est une création totale de Poutine.
Ah bon?
Et puis, les créations, elles finissent toujours par échapper à leur maître. Mais au départ, l'homme a de l'argent. Pour l'essentiel, il a fait des résultats impressionnants dans les grandes villes. Et même, et là, ça va être un scoop que je vais vous dévoiler, c'est lui qui a eu le plus de voix en France parmi les Russes résidents en France.
Eh bien, c'est encourageant.
Autrement dit, Poutine n'a fait que 33% des Russes résidents en France. Mikhail Prokhorov fait plus de 50%. Ça vous dit un peu quand même que les élites ont en partie... Si vous voulez, je crois. En tout cas, si ce n'est trahi, en tout cas, se sont éloignés du modèle imposé et qui a des formes de renouvellement, je crois, très confuses, mais qui existent réellement. Donc, entre ces élections, qui ne sont pas totalement encore analysées à fond, qu'il faut aussi placer dans le contexte économique de la Russie, où l'entourage de Poutine et Poutine lui-même sont seuls, qui sont persuadés que, ils ont été des sauveteurs et que c'est eux qui vont continuer à mener cette stratégie, quelque part, de l'émergence et de la réussite. Je crois que ces élections, elles sont un moment, dans l'histoire de la Russie, extrêmement importante, même si les formes de caricature sont à tout un moment présentes. Il faut voir, c'est par exemple quand même que l'essentiel de ce que j'appelle l'intelligentsia, qui généralement se cachait, se cache encore par exemple dans le cas de la Syrie, où vous n'entendez aucun intellectuel russe s'exprimer sur ce sujet-là.
C'est peut-être un sujet un peu dangereux.
Moi, j'en suis d'autant plus choqué que lors de mes années en Russie, j'ai fait mes études avec des intellectuels syriens qui sont tous aujourd'hui dans l'opposition à Bachar el-Assad. Mais par contre, sur le plan intérieur, on sent que les envies de liberté, les envies de fonctionnement, je veux dire démocratique, plus libre, moins téléguidé, restent importants et restent sans doute encore confinés à une classe un petit peu privilégié, mais qu'il y a véritablement eu quelque chose qui s'est produit, qui, je l'espère, continuera. Je dis que je l'espère parce que les pratiques démocratiques en Russie sont impossibles.
Donc,
on choisit les adversaires, on les enferme en cas de besoin. Mais ce qui reste quand même un petit peu inquiétant, c'est qu'entre Poutine et le chef des blogueurs, Navalny, par exemple... Ni l'un ni l'autre ne sont finalement très recommandables. Et tous sont dans le même type de discours.
Bon, eh bien donc tout ça n'est pas rassurant, mais on va garder un œil sur ce qui se passe en Russie. On voit dans 3 mois à peu près, on fait le point avec vous.
Oui, il faut voir
dans 3 mois.
Ce slogan qui est apparu à Moscou va se confirmer. Je vais le dire en russe pour qu'il n'y ait pas...
Dites-le en russe en guise de conclusion.
...de la table. C'est не раскачивайте лодку нашу крысу тошнит. Je vais le traduire et vous comprenez pourquoi je mets cet enjeu-là. Ne secouez pas trop la barque parce que notre rat, il s'agit de Poutine bien sûr, a mal au cœur.
Eh bien, Bernard Joliot, merci. Ça me semble une excellente conclusion. On fait le point dans quelques, je dirais dans 3 mois, sur la Russie.